Chapitre 7. Le lendemain matin, Juliette se réveilla dans le même état que s'il fallait qu'elle aille chez le dentiste. Elle resta allongée un long moment, les yeux fermés, serrés très fort. Elle aurait voulu tout oublier. Sa maison n'avait pas brûlé, ses parents n'avaient pas disparu pour toujours, et elle n'avait pas été envoyée au fin fond de l'Afrique pour vivre avec une étrangère. Le réveil sur sa table de nuit indiquait 6h05. À cet instant, un oiseau à la gorge orangée vint se poser sur une poutre devant sa fenêtre et entonna un trille de pur bonheur. Elle se redressa en s'appuyant sur un coude pour observer la réserve à l'extérieur. Le point d'eau était nimbé d'une fine brune et miroitait sous la lumière dorée du soleil. Une douzaine d'éléphants pataugeaient autour, se vautraient dans la boue ou s'arrosaient avec leurs trompes. Non loin, des zèbres broutaient tranquillement. Juliette secoua la tête tant elle était émerveillée. C'était un spectacle tellement fabuleux que son angoisse fut immédiatement apaisée. Mais il fallait encore attaquer une nouvelle journée. Et peu après, elle descendit en traînant les pieds. Sa grand-mère était assise devant la table de la cuisine, les mains autour d'une tasse de café. « Bonjour, Juliette. J'espère que tu as bien dormi, » dit-elle. Sa voix tremblait légèrement, trahissant une certaine nervosité. Juliette n'eut pas le temps de répondre qu'elle poursuivit. « Il y a un œuf dur dans la casserole et des toasts dans le grille-pain. Tout ce dont tu as besoin est sur la table. Je t'ai préparé une boîte avec de la crème solaire, des pêches pavies du jardin et des sandwichs au fromage et au chutney sur le buffet, là. Il faut que j'aille nourrir les éléphants, mais je serai de retour à 7h30 pour t'accompagner à l'école. » Juliette bredouillait encore un timide merci quand la porte de la cuisine claqua derrière sa grand-mère, créant un violent courant d'air. Était-ce un au revoir, une façon de s'excuser? Oh, sûrement pas. Il ne devait pas y avoir grand-chose à attendre du côté de sa grand-mère, question douceur. Au cours des 15 minutes de trajet qu'elle dut faire pour aller à l'école avec sa grand-mère, Juliette eut de nouveau l'impression qu'il fallait qu'elle aille chez le dentiste. Elle se demandait à quelle remarque désagréable elle allait encore avoir à droit, et n'arrêtait pas de se tortiller dans son nouvel uniforme en maudissant sa jupe. Et quelques instants plus tard, quand elle franchit les portes de l'école de Caracal Junior, elle ne fut pas beaucoup plus rassurée. Ses futurs camarades avaient l'air sûrs d'eux. Ils étaient beaux, bronzés, de toutes nuances de couleur de peau. Miel, cappuccino, chocolat. Elle, c'était blanc, caché d'aspirine. Sa grand-mère l'abandonna devant la porte du bureau de la directrice. « Bonne journée !» lui lança-t-elle sur un ton abrupt, mais gentil. « Tondai et moi passerons te prendre à 4h !» Juliette se plaqua contre le mur en essayant de se faire aussi petite que possible. « 2 secondes, je suis à vous » entendit-elle après avoir frappé à la porte. À l'intérieur, une femme parlait au téléphone. Juliette en profita pour observer les lieux. Son ancienne école, Bodley Brook Junior, ressemblait à une prison en béton, avec une cour en goudron et des toilettes couvertes de graffitis. Les couloirs avaient des murs beige sales dont la peinture s'écaillait et empestait le désinfectant. Sa nouvelle école, elle, ne ressemblait pas à une école, mais plutôt à un superbe et vaste campement. C'était un ensemble de bâtiments en rondins de bois de châtaignier, construits autour de pelouses vert émeraude et de grands arbres. Plus loin, derrière une clôture de bois, miroitait une piscine. « Reviens sur terre, ma petite !» Tu es bien dans un collège et nous enseignons les mêmes choses que chez toi, aussi ennuyeuses. Tu sais bien, les divisions, les grands rois de l'histoire, la ponctuation. » L'expression sur le visage de Juliette devait être assez comique, car la femme qui se tenait sur le seuil de la porte éclata d'un immense rire. Avec ses pendentifs en bois en forme de perroquet et sa longue robe violette, elle avait un faux air de Cléopâtre. « C'était pour rire, ne t'inquiète pas !» ajouta-t-elle en tirant Juliette dans son bureau. « Bien entendu, nos cours sont extrêmement intéressants. Mais d'abord, je me présente. Hélène Ratmore, directrice. Quant à toi, j'imagine que tu es Juliette. Bienvenue à Caracal Junior. Juliette se demanda si toutes les femmes en Afrique étaient aussi exubérantes et portaient des vêtements aussi voyants, ou si le fait qu'elle en ait rencontré plusieurs en si peu de temps était une coïncidence. Madame Maratmore la pria de s'asseoir dans un fauteuil, et, comme si elle avait lu dans ses pensées, ajouta « Maintenant, nous pouvons passer aux choses sérieuses. » Elle avait beau avoir un curieux sens de l'humour, Juliette ne pouvait s'empêcher d'aimer cette nouvelle directrice, car elle semblait avoir les pieds sur terre. Elle lui expliqua que, en dépit des apparences, Caracal Junior était un collège comme les autres, même si les professeurs mettaient particulièrement l'accent sur les questions d'environnement. Tous les bâtiments étaient chauffés à l'énergie solaire. La cantine ne servait que des plats bio et de nombreux projets scolaires avaient trait aux problèmes écologiques. Puis elle lut avec Juliette le règlement du collège et lui expliqua son emploi du temps. Manifestement, le sport y tenait une place très importante et le collège avait formé de nombreux champions. Un des gymnases possédait même un mur d'escalade et les terrains de sport s'étendaient sur plusieurs hectares. « Si tu es doué pour un sport ou autre chose d'ailleurs, nous tâcherons de le mettre en valeur, » promit-elle. Juliette, qui savait très bien qu'elle n'avait aucune aptitude sportive particulière, elle avait déçu tous les espoirs des uns et des autres dans son domaine, songea aux paroles de Grace. « Tu possèdes le don, mon enfant, » comme disaient nos ancêtres. Mais quel était ce don? Avait-il quelque chose à voir avec les sciences, les maths, les arts plastiques ou la musique? Ou était-ce un don qu'elle ne pouvait pas deviner? « Fais très attention, » l'avait prévenu Grace. « Le don peut être une bénédiction autant qu'une malédiction. Tâche de prendre des décisions sages. » Que pouvait être ce don qui nécessitait une telle mise en garde? Lucie Van Heerden, une de nos élèves chargée de discipline, poursuivit la directrice. Lucie est dans la classe de Miss Volkner avec toi. Juliette? Juliette? Reviens sur terre, ma petite. Ce n'est pas le moment de t'endormir, dis-moi. Juliette cligna des yeux. Une jeune fille de son âge, blonde et élégante, se tenait en face d'elle, la main tendue. Juliette la lui serra et eut la surprise de découvrir qu'elle était glacée. À en juger par la couleur caramel de sa peau, Lucie Van Heerden devait passer le moindre instant de liberté à surfer ou à se faire bronzer sur la plage. Madame Ratmore demanda à Lucie de prendre Juliette sous son aile, de la mettre au courant des usages du collège et de lui accorder un « bienvenue à Caracal Junior » très spécial. Puis elle disparut dans un nuage de volants violets en abandonnant Juliette entre les mains de sa nouvelle camarade de classe. « Tu es super blanche !» s'exclama Lucie à peine la directrice avait-elle tourné les talons. « D'où viens-tu ? D'Islande ?»« D'Angleterre !» marmonna Juliette qui se sentait plus gauche et mal à l'aise que jamais. « Je rigolais !» répondit Lucie en gloussant, la gratifiant d'une tape sur l'épaule amicale mais énergique. « Allez, viens, on est en retard pour le cours de Miss Volkner, mais à la récré, je te présenterai au reste de la bande. » À l'heure du déjeuner, Juliette découvrit que la bande de Lucie était le gang des 5 étoiles, qui réunissait les élèves les plus enviés du collège. Il y avait Luc, le frère jumeau de Lucie, lui aussi beau, blond et la peau caramel. Scott Anderson, qui arrivait tous les matins dans une Lamborghini rouge. Peter Booker, le capitaine de rugby de l'école. Et un garçon noir qui s'appelait Corsa Washington, qui était le fils du maire. Pour ceux qui ne pouvaient émettre un petit claquement de langue propre à la prononciation africaine, son nom se disait Corsa. Tous avaient la dernière coupe de cheveux à la mode et une façon si particulière de porter leur uniforme qu'on aurait dit des vêtements de couturier. La plupart des élèves donnaient l'impression de les idolâtrer et Juliette remarqua qu'ils obtenaient tout ce qu'ils voulaient. Même les professeurs semblaient leur accorder un traitement de faveur. Lucie présenta aussi Juliette à quelques élèves qui ne faisaient pas partie du gang. Ils avaient l'air plutôt sympathiques. Et 2 ou 3 firent des efforts pour qu'elle ne se sente pas exclue. Enfin, Elle s'assit au soleil pour manger ses sandwichs au fromage et au chutney, répondant par des sourires et des hochements de tête. Mais elle ne pouvait s'empêcher de se demander pourquoi elle éprouvait un tel sentiment de tristesse et de solitude alors qu'elle était dans un lieu aussi beau, entourée d'élèves qui venaient de l'accueillir si spontanément. Tout ce dont elle souffrait à Baudley-Brooke revenait. Non seulement elle se sentait timide et maladroite, mais surtout elle ne se sentait pas à sa place. Aucun des sujets de conversation de ses camarades ne l'intéressait. Le surf, le gel pour cheveux dernier cri, les tubes de musique. Au fond, qu'est-ce qui l'intéressait? Elle ne savait pas. Lire, peut-être, et l'histoire de la girafe blanche. La girafe blanche, oui, voilà qui l'intéressait et qui l'intriguait au plus haut point. Elle était en train de réfléchir lorsqu'elle remarqua une petite silhouette assise seule sous un arbre, au loin. Elle interrogea Lucie pour savoir qui c'était. « Ah, lui !» répondit-elle avec mépris. « Soit il est sourd-muet, soit il est débile. Personne n'arrive à savoir exactement. » Juliette apprit, au cours des jours suivants, que le garçon en question s'appelait Ben et qu'il était métisse. Son père était zoulou et sa mère asiatique, une danseuse indienne, disait-on. Il était particulièrement petit et presque aussi menu qu'elle, qui n'était pas très grande pour son âge. Et beaucoup se moquaient de sa taille. Pourtant, il suffisait de l'observer pour voir qu'il était loin d'être un gringalet. Il avait des bras et des jambes bronzés, solides et musclés. Mais la majorité des élèves qui le raillaient n'avaient jamais pris la peine de le remarquer. Il était d'emblée exclu et personne ne lui adressait la parole. Cela était en partie dû au fait que, depuis 3 ans qu'il était dans cette école, il n'avait jamais prononcé le moindre mot. Les professeurs, eux, s'étaient habitués à son silence, car c'était un très bon élève, toujours parmi les 5 premiers de la classe, même s'il répondait à leurs questions sur des bouts de papier. En revanche, aux yeux du gang des 5 étoiles, qui prétendait l'avoir vu mener une conversation tout à fait normale avec son père sur le parking, il était à la fois une source d'agacement et de moquerie. Tous les jours, à l'heure du déjeuner, il prenait son pique-nique et disparaissait le plus loin possible, au bout du terrain des sports. Là, il s'asseyait et lisait tranquillement. On l'avait surnommé « Bouddha Ben » parce qu'il faisait parfois brûler de l'encens et ne ripostait jamais si on lui volait son livre ou si un élève l'obligeait à faire ses devoirs à sa place. Juliette était mal à l'aise de voir à quel point les élèves étaient méchants avec lui, et elle décida de faire sa connaissance. Hélas, le jour où l'occasion se présenta, Lucie lui fit signe en lui demandant ce qu'elle fabriquait, et Juliette n'eut pas le courage de lui avouer qu'elle était sur le point d'aller voir Ben le Branque, comme l'appelait Lucie. Le lendemain, elle remit ça à plus tard, pour une autre raison, le lendemain encore, jusqu'au moment où elle finit par ne plus du tout penser à lui.